Europe 1. Écoutez le monde changer. 15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1. Anne Le Gall.
Bonjour et bienvenue dans Sans rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Comment profiter de la période estivale? Comment faire pour retrouver de l'énergie, pour mieux manger, pour prendre soin de son corps et de sa tête? J'aurai le plaisir de vous retrouver tout au long du mois de juillet pour évoquer ces questions et pour m'accompagner dans cette mission. Le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, est à mes côtés en studio. Bonjour Damien.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Pour garder les bonnes habitudes, vous nous proposerez des conseils en sexologie un peu avant 16h, ainsi que des conseils de santé pratiques pour l'été. Quel est le programme du jour?
Alors côté sexo, nous nous demanderons en fin d'émission si finalement croire au prince charmant est une bonne chose, ou la princesse, pour le couple. Et puis bien dans les petits bobos de l'été, nous verrons comment résister au cauchemar des parents, le mal des transports.
Ah oui, cauchemar. Et notre grand dossier du jour sera consacré aujourd'hui à la chrononutrition, l'art de manger les bons aliments au bon moment de la journée. Faut-il avaler des fruits, du chocolat, du fromage, plutôt le soir ou le matin? Notre experte Isabelle Barra est en studio pour nous éclairer. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Soyez les bienvenus dans votre émission santé sans rendez-vous.
Anne Le Gall vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et pour démarrer, voici la question pratique du jour. D'où vient le mal des transports? Avec les départs en vacances ce week-end, certains ont déjà peut-être expérimenté ce petit pépin. Hein, on appelle ça la cinétose en jargon médical. Docteur Damien Mascret, en général, ça survient en voiture chez les enfants. Tout d'un coup, ils sont tout pâles, ils disent plus rien. Et puis voilà, ils ont envie de vomir. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'est vrai que c'est plus fréquent entre 2 et 12 ans. Hein, et ça reste malgré tout possible chez les plus grands, évidemment. Hein. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez mal au cœur en voiture, c'est parce que votre cerveau reçoit des informations contradictoires. Mmh. D'un côté, vos yeux vous disent que tout est stable, rien ne bouge autour de vous, oui. Et de l'autre, votre cerveau reçoit des messages comme quoi votre corps est en train de bouger très rapidement.
Donc malaise.
Malaise. Alors surtout, bien sûr, si vous lisez en voiture, si vous regardez une tablette ou si vous regardez un film, vous avez là, bien sûr, d'un côté vos yeux qui sont stables et de l'autre, l'oreille interne qui donne l'équilibre et qui vous dit, effectivement, on avance très vite, c'est le conflit, le cerveau déclenche la nausée, voire les vomissements, parce que votre cerveau qui est malin depuis très longtemps, il sait que quand il y a des informations discordante, c'est probablement que vous avez bu ou peut-être que vous êtes empoisonné, donc il vous fait vomir.
Il nous fait vomir. Alors vous allez nous expliquer dans un instant comment éviter ça, Damien. Mais d'abord, dites-nous comment fait l'oreille interne pour réaliser qu'on est en mouvement.
Alors là, on touche au sublime. L'intérieur de l'oreille, c'est un appareil ultra sophistiqué. On pense parfois qu'il y a simplement le tympan et puis derrière l'audition. En fait, non. Il y a ce qu'on appelle l'oreille interne, l'organe de l'équilibre. C'est des petits canaux qui sont remplis d'eau. Ouais. Mais ils ne sont pas seulement remplis d'eau. Ils sont également remplis de liquide. Et dans ce liquide qui contient des cils, un liquide très dense, eh bien, il se passe que vous avez les trois dimensions de l'espace qui sont représentées, la hauteur, la longueur, la largeur. Résultat, c'est comme un aquarium qui aurait des algues au fond. Quand vous bougez l'aquarium, les algues bougent dans un sens ou dans l'autre. Eh bien, dans votre oreille, évidemment, ce n'est pas des algues, c'est des petits cils, justement, qui vont bouger dans un sens et dans l'autre. Et ça peut, bien sûr, déclencher eh bien, la nausée et les vomissements. Ça envoie un influx au cerveau. Votre cerveau, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans votre corps, mais une information discordante avec les yeux.
Et alors, on remarque parfois que c'est encore pire dans les embouteillages. Comment ça s'explique?
Bah oui, là, c'est pire. C'est le paroxysme des informations contradictoires pour le cerveau. Vous avez les cils qui partent dans un sens quand on accélère. D'un seul coup, on freine, ça s'arrête, ça part dans l'autre sens. Et puis, on redémarre, ça repart en avant. Donc là aussi, eh bien, personne n'aime ces accélérations, décélérations. Ouais. C'est même un des rares cas où le conducteur peut lui-même tomber malade, lui-même avoir mal au cœur.
Ça
arrive pour le conducteur, dans les embouteillages notamment. C'est pour ça qu'on dit aux passagers, regardez la route. C'est pour anticiper. Voilà. Plus on arrive à anticiper sur ces mouvements, et moins on aura ces nausées. Un autre moyen d'éviter comme ça ces discordances, c'est d'avoir un point fixe à l'horizon. C'est particulièrement utile si vous êtes en mer, alors il faut voir la côte ou alors il faut qu'il y ait une île à proximité, bien sûr. Mais si vous avez cette vision fixe, ça va vous aider, ça va aider votre cerveau à comprendre ce qui se passe. Si ce n'est pas possible parce que vous êtes dans un avion, dans une cabine, ben le plus simple, c'est de fermer les yeux. Puis dans un TGV, pensez à prendre plutôt l'étage du bas, ça bouge moins. Voilà, ça bougera beaucoup moins. Et puis surtout, n'oubliez pas en voiture d'avoir une bonne visibilité.
Et on se met dans le sens de la marche.
Dans le sens de la marche, légèrement incliné en arrière, c'est la position idéale.
Alors, on a une question d'auditeur sur le mal des transports. Écoutez ce que nous demande Fanny.
Alors moi, je me posais une question. J'aimerais comprendre pourquoi j'ai toujours le mal des transports, que ce soit en voiture, en train ou en avion. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi ?
Alors Fanny...
pourquoi voilà, certains sont touchés, pas d'autres?
Et c'est vrai que c'est un mystère. On commence à avoir des pistes. On sait par exemple qu'il y a la piste hormonale qui est importante. Et on sait effectivement, Fanny est une femme. Les femmes sont un peu plus prédisposées que les hommes à avoir le mal des transports à cause des hormones. Oui, en particulier d'ailleurs pendant les règles. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'après la ménopause, à l'inverse, eh bien, celles qui sont sujets à la synétose, eh bien, ça va diminuer. On aura moins
mal au cœur. J'apprends quelque
chose. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis récemment, on a découvert aussi des pistes génétiques. Il semble que le chromosome 4 contienne des gènes de susceptibilité. Et c'est pour ça qu'il y a des familles dans lesquelles tout le monde quasiment a mal au cœur. C'est à cause de ces chromosomes.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce mal de cœur?
Alors déjà, à la base, il faut éviter la chaleur. Hein. On est moins malade quand il fait frais. Évidemment, si on peut ouvrir les fenêtres sans avoir les odeurs de peau d'échappement, on le fait. Parce que justement, les odeurs, c'est quelque chose de très important sur lequel on peut agir. Hein. Parce que les odeurs, c'est très ancestral. Finalement, ça peut déclencher des vomissements. Donc, les odeurs, on peut agir. Évitez toutefois les parfums en voiture parce que vous les aimez peut-être, mais peut-être que les autres ne vont pas aimer.
Et les médicaments, on a des solutions ?
Alors, les médicaments, il y a effectivement des solutions. C'est quand on a des formes sévères de mal des transports. Il y a des médicaments qu'on peut prendre une demi-heure ou une heure avant le trajet. C'est les antihistaminiques en comprimé, un type Notamine à partir de 2 ans ou Mercalm à partir de 6 ans. Et puis, à partir de 15 ans, il y a même des patchs de scopolamine qu'on peut coller derrière l'oreille. Ça, c'est plus longtemps avant. Il faut le mettre 6 ou 12 heures avant le voyage.
Et
attention.
C'est efficace, le patch.
C'est efficace, mais il y a des contre-indications. Donc, attention, il faut évidemment, de toute façon, l'avoir sur prescription médicale, parler à son médecin et au pharmacien.
Merci docteur Damien Mascret. Europe 1. À suivre dans cette émission, le dossier du jour consacré à la chrononutrition, l'art de manger les bons aliments au bon moment de la journée. Ça peut nous aider à perdre quelques kilos, vous allez l'entendre. On se retrouve dans un instant.
Europe 1. Sans rendez-vous. Anne Le Gall.
Vous écoutez Sans rendez-vous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. À mes côtés dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, et notre invité du jour avec qui nous allons parler du contenu de notre assiette et surtout de l'heure de nos repas. Bonjour Isabelle Barra.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Vous avez une formation de docteur en pharmacie et vous faites du conseil en nutrition et chrononutrition à Paris. Alors on va commencer par les bases de la chrononutrition. C'est un concept qui a été développé en 1986 par le docteur Alain Delabosse. Comment on pourrait en résumer le principe ?
Pour résumer le principe assez simplement, la chrononutrition consiste à manger les aliments, les bons aliments au bon moment. Au moment où votre organisme va bien utiliser ces aliments sans les stocker et les utiliser pleinement.
C'est parce que c'est un régime qui se base sur la sécrétion d'hormones par l'organisme ?
Alors en fait, ce n'est pas un régime, c'est plutôt une optimisation alimentaire qui tient compte effectivement de ce qu'on appelle l'horloge biologique. Et nous avons tous une horloge biologique qui fait que nous avons des variations d'enzymes et d'hormones tout au long de 24 heures, de la même façon pour tout le monde. Et donc, ces hormones et ces enzymes utilisent les aliments d'une façon différente entre le matin, le midi, le soir ou la nuit.
Alors, c'est un mode alimentaire qui s'intéresse notamment à la sécrétion du cortisol. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est une hormone ?
Alors, déjà, il n'y a pas que le cortisol. Sur 24 heures, il y a beaucoup d'enzymes et d'hormones qui fluctuent. Effectivement, le cortisol est important. Il commence en début de matinée, mais surtout, il précède l'insuline.
Et il gère le stockage des graisses ?
Alors, l'insuline, a une très grosse influence sur le stockage des graisses. L'insuline est une hormone qui a un pic déjà à 8 heures, après, en fin de matinée, vers 11 heures. Un petit pic vers 15 heures et après qui diminue très très fortement de façon naturelle. Sauf si vous ingérez des aliments, ce qu'on appelle les sucres rapides. Et dans ce cas-là, il y a des pics supplémentaires qui sont créés par le pancréas et qui fait que l'insuline va intervenir de façon plus intense pour gérer l'apport de sucre. Mais il faut dire aussi que l'insuline a le revers de la médaille, c'est-à-dire que l'insuline est une hormone de stockage.
Mais c'est ce qui est un peu compliqué effectivement avec ces hormones, parce qu'on sait que naturellement il y a des cycles effectivement d'hormones, vous l'avez dit avec l'insuline, mais on sait aussi que la façon dont on se comporte avec les aliments qu'on va apporter ou alors avec l'activité physique qu'on va avoir va modifier tout ça. Donc comment vous faites pour démêler ça ?
Alors comment on fait pour démêler ça ? Déjà on tient compte de notre cycle naturel. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'insuline est très augmentée à 8 heures du matin et très basse le soir. Donc, on va essayer de faire ingérer les sucres rapides au moment où l'insuline sera très peu présente, c'est-à-dire en fin de journée. On va essayer d'éviter les sucres rapides au petit déjeuner, au déjeuner, et on va intervenir dans les sucres rapides que sous une forme de collation en fin d'après-midi.
Donc, le sucre, c'est au goûter ?
Voilà.
Ah, ça veut dire qu'au petit déjeuner, par exemple,
la
tartine de confiture, ce qu'on appelle céréales, mais qui sont souvent des bonbons sucrés, effectivement, c'est pas une bonne idée, ça.
Non, c'est pas du tout une bonne idée. Parce qu'en fait, vous allez refaire un pic supplémentaire d'insuline. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est comme l'insuline joue bien son rôle et qu'elle fait rentrer le sucre dans les cellules, vous allez avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle en fin de matinée, vers 11h. Et vous allez avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie, c'est tout. Donc, fringale, fatigue, bâillement, manque de concentration en fin de matinée. Et surtout, une faim qui arrive de façon beaucoup plus précoce.
Alors, si on essaie de décrire une journée type, dans l'idéal, au petit déjeuner, il faudrait avaler quoi ?
L'idéal au petit déjeuner, c'est, je dirais, le seul moment où on peut ingérer ce qu'on appelle les corps gras saturés. Ils ont leur place.
Du beurre, du fromage.
Voilà, du beurre, du fromage, un petit peu de féculent comme du pain, c'est l'idéal.
D'accord.
Voire un œuf, si on a une matinée longue, voire éventuellement de la charcuterie. Mais tous les corps gras.
Un petit déjeuner salé plutôt.
Voilà, un peu à l'américaine, un peu le bacon, les œufs sur le plat, exactement. En fait, tous les corps gras qui ont mauvaise réputation lorsqu'on veut perdre du poids ou qu'on veut lutter contre le cholestérol, il faut les mettre en début de journée à la matinée. Et là, ils sont vraiment utilisés de façon optimum. Ils vous donnent de l'énergie. Les corps gras saturés, il faut savoir aussi qu'on en a besoin pour nos membranes cellulaires, pour plein de choses. Le cholestérol n'a pas que des effets négatifs, il est aussi très utile. Il est la base de certaines de nos hormones. Donc, il est hors de question sur très très long terme de se priver de corps gras, même de corps gras saturés.
Mais il ne s'agit pas de se priver de choses, il s'agit de les répartir différemment dans la journée.
Voilà, exactement. Il faut les mettre dans la bonne case. Je dis toujours que la chrononutrition, c'est une optimisation alimentaire, c'est un schéma adopté. D'ailleurs, c'est à faire à vie. Les personnes, c'est très efficace pour perdre du poids, mais il ne faut pas faire la chrononutrition 3 mois et puis reprendre une alimentation normale derrière, parce que vous allez d'une part reprendre tout le poids que vous avez perdu et tous
c'est
les bienfaits. C'est
une hygiène
de vie. C'est une hygiène de vie, tout à fait, oui. Il faut l'adopter.
Donc, on a compris un petit déjeuner copieux plutôt avec du gras, du salé, éventuellement des œufs. Une collation au goûter, où là, on a le droit à du sucré.
Oui.
Et pour le déjeuner, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, le déjeuner, c'est le moment de ce qu'on appelle la synthèse musculaire, naturellement, qui peut être aussi boostée quand on fait du sport. Mais là, je dirais que c'est une parenthèse. Mais le déjeuner, c'est le moment où votre organisme va faire naturellement du muscle. Et pour faire du muscle, il vous faut beaucoup de protéines et un petit peu de féculents.
D'accord.
Donc, on va écarter tout ce qui ne sert à rien. On va écarter les entrées, les desserts, ce qui inclut aussi les fruits qu'on écarte. Et on met vraiment ce qu'il faut pour la synthèse musculaire.
C'est la viande, les poissons, les œufs.
Voilà, ça peut être de la viande rouge, de la viande blanche, ça peut être des œufs, ça peut être du poisson en quantité assez importante parce que le poisson est une protéine qui se digère assez rapidement. Donc, si
ça
on veut pas.
Des légumes, tout ça.
Alors, les légumes sont le soir. Il vous faut des féculents.
Des féculents.
Féculents, ça veut dire tout ce qui est à base de fécules. Ça inclut tout ce qui est céréales, tout ce qui est légumineuses. Ça peut même être des pommes de terre, des frites, mais en quantité modérée, on va dire.
Les pommes de terre, justement, c'est intéressant parce que là aussi, souvent, quand on parle de, alors pas de ces régimes, mais en tout cas de cette façon de s'alimenter, on oublie la cuisson parce que la cuisson peut changer le visage, j'allais dire, d'une pomme de terre. En tout cas, plus on cuit, ça va être différent. Qu'est-ce qui se passe effectivement avec les patates quand
avec
on est
les
dans
patates,
le Nord.
C'est-à-dire que déjà, il faut les consommer assez rapidement parce qu'elles deviennent toxiques si on les garde trop longtemps. Il faut le savoir
aussi.
Si elles
germent, ça n'est plus bon.
Toxiques quand elles sont cuites. Il faut quand même les consommer dans les 24 heures, on va dire, déjà. Après, les pommes de terre, bah, y a plein de bonnes choses dans la pomme de terre. Il y a des vitamines, il y a des bons féculents. Bon, il ne faudrait pas se nourrir que de ça, évidemment. Il y a la façon de les cuisiner. Les pommes de terre, c'est un aliment très sain.
Et le soir, alors, si on continue sur notre journée type ?
Oui. Alors, il faut éviter, effectivement, à ce moment-là, les féculents. C'est-à-dire qu'à partir du goûter, c'est notre fenêtre, on a les sucres rapides. Le soir, il faut éviter les sucres lents.
Des légumes.
Voilà, on va incorporer dans notre alimentation...
Du poisson, peut-être ?
Du poisson, tout ce qui est protéines. Je dirais, à partir du goûter, on est dans la micronutrition. C'est-à-dire les aliments qui vous valent du bien en petite quantité. C'est des aliments plus légers et qui apportent des micronutriments et qui sont utiles à votre organisme pour se régénérer la nuit. Faut savoir que la nuit, il se passe plein de choses dans le cycle. Le foie travaille beaucoup. Il a un pic, une acrophase à 2-4 heures du matin. Il vous détoxifie, vous maigrissez la nuit. Il faut le savoir aussi. Donc, on mange plutôt en entonnoir. C'est pour ça qu'on mange riche le matin, plutôt léger et qualitatif le soir. Donc le soir, ça va être plutôt poisson, viande blanche, sans sauce, mais avec des bonnes huiles, les oméga 3, les choses, je dirais vraiment les micronutriments.
Et plutôt léger.
Voilà, et les légumes.
Dans un instant, on continue de parler de chrononutrition avec vous, Isabelle Barra. Nous avons encore beaucoup de questions pour vous.
Europe 1.
Peut-on perdre du poids avec la chrononutrition ? A-t-elle été testée scientifiquement ? Y a-t-il des contre-indications ? On poursuit cette conversation dans un instant dans son rendez-vous.
Anne Le Gall vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
C'est votre émission Santé Bien-être sur Europe 1. Autour de la table, dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, et notre invitée Isabelle Barra, docteur en pharmacie et experte en chrononutrition. Nous parlons ensemble de l'art de manger les bons aliments à la bonne heure. Alors, d'après les principes de la chrononutrition, il y a aussi l'horaire des repas et leur espacement qui est important. Il faut laisser un intervalle suffisamment grand entre chaque repas, Isabelle Barra.
Oui.
Quel est l'espace idéal ?
On conseille minimum 4 heures entre le petit déjeuner et le déjeuner. Bon, c'est un intervalle qui peut être plus long, ce n'est pas tellement un problème. 4 heures entre déjeuner et la collation, le goûter, et minimum 1h30 entre collation et dîner, minimum 1h30 à 2 heures. Et après, entre le dîner et se coucher, minimum 2 heures.
D'accord, et j'ai lu aussi en préparant cette émission qu'on pouvait maigrir avec la chrononutrition.
Oui.
On pouvait perdre, alors ça me paraît beaucoup, on pouvait perdre jusqu'à 4 kilos en une semaine. Ça me paraît rapide comme perte de poids. Qu'est-ce que vous en dites ?
Alors, effectivement, oui, pour répondre à la question, et évidemment, on peut maigrir de façon extrêmement efficace en chrononutrition. En moyenne, moi, je vois, c'est à peu près 1 kg par semaine. 1 cm de tour de taille et 1 kg par semaine. Il y a effectivement des personnes qui maigrissent très, très, très vite. Ça dépend aussi du poids qu'on a de départ. Il faut aussi voir ça.
Mais c'est-à-dire, plus on est en surpoids, plus c'est facile ?
Oh ben, ça démarre assez vite quand même. C'est vrai que quand les personnes dépassent une centaine de kilos, ça peut démarrer très vite si les personnes font très bien. Il faut savoir aussi, en chrononutrition, il ne faut pas d'écart. Il faut bien respecter.
Il faut appliquer à la lettre.
Il faut appliquer à la lettre. Alors, c'est quand même une façon de s'alimenter très souple parce que c'est des catégories d'aliments. Par exemple, vous avez les légumes au sens large du terme. Vous avez les fruits, vous avez des corps gras végétaux au niveau du goûter, ça peut être aussi bien du chocolat que des graines, que des amandes. C'est quand même large, si vous voulez. Mais en dehors des
pas
créneaux...
Pas de crème glacée, pas de biscuits
des sorbets.
Ah, d'accord.
Des sorbets au goûter, okay. Mais évitez les crèmes glacées qui auront plus leur place sous forme de joker, une fois ou deux par semaine.
C'est le bonus, alors.
C'est le bonus, voilà, c'est ça. Parce que sinon, s'il y en a plus, mais on va perturber si on veut perdre du poids quand même. Mais voilà, il faut éviter... le chocolat à 21h qui n'a pas sa place, l'apéritif le soir, voilà, les petits écarts, le chocolat dans le café, on ne prend pas de dessert le midi, mais on s'octroie un petit sucre, un petit chocolat. Même un grain de raisin en dessert le midi peut...
C'est considéré comme un dessert sucré.
Ça peut anéantir les effets de la chrononutrition. On peut avoir des résistances.
Alors,
parce qu'un
pic
d'insuline.
Damien Mascret.
Oui, non, je voudrais juste nuancer un petit peu par rapport à la perte de poids. Alors, c'est vrai que quand les gens font beaucoup d'excès, beaucoup d'erreurs, ils peuvent perdre rapidement. Mais c'est vrai aussi qu'on n'aime pas trop en médecine que les gens perdent du poids rapidement. Parce qu'on sait aussi que quand quelqu'un perd rapidement du poids, l'organisme, en quelque sorte, sort ses contre-mesures. Va notamment réduire le métabolisme de base. Vous savez, cette consommation de calories qui est nécessaire à l'entretien du corps. Mais si votre corps se dit, tiens, il n'y a plus suffisamment d'apport, eh bien, il peut réduire ça, ce qui fait que non seulement vous allez d'un côté être plus fatigué, mais de l'autre côté, vous allez, pour la même consommation, finalement, vous risquez de reprendre du poids rapidement. C'est l'effet rebond qui peut se produire après. Donc, la question que je pose cette fois-ci, côté chrononutrition, c'est quel est, selon vous, le bon rythme de perte de poids, celui qui vous paraît, en tout cas, raisonnable ?
En chrononutrition, je pense qu'un kilo par semaine, alors je ne le décide pas, c'est-à-dire c'est la moyenne de ce qu'on observe, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait bien la chrononutrition avec les quantités qui lui sont adaptées, qui lui sont calculées, perd en moyenne un kilo par semaine à peu près.
D'accord. Et sur quelle durée ? Parce que vous savez aussi qu'on juge effectivement l'impact à 6 mois et 1 an, puisqu'on sait qu'après la perte de poids initiale, il y a toujours une remontée. Donc, sur la durée, vous estimez là aussi à quelle perte de poids ? 1 an, par exemple, la chrononutrition.
Si une personne peut perdre encore au bout d'1 an. J'ai des patients qui perdent encore au bout de 2 ans. jusqu'à obtenir la stabilité de leur poids qu'on calcule par des calculs qu'Alain Delabo avait conçus à l'époque, qui sont toujours d'actualité. Et on vous fait ce qu'on appelle un morphotype, on vous mesure votre tour de poitrine, tour de taille et tour de hanche idéal, on va dire théorique, et on vous calcule votre poids théorique. Et la chrononutrition, si elle est bien respectée, vous allez tout doucement obtenir ce poids et cette morphologie qu'on appelle calculée ou idéale. Donc ça peut... En fait, en chrononutrition, on n'a pas de reprise de poids. Parce que les personnes, si elles ont adopté la chrononutrition, elles se stabilisent.
Ce n'est pas traumatisant pour l'organisme, il n'y a pas de...
Non, parce que c'est extrêmement bien équilibré. Je pense que c'est la façon de se nourrir même la plus équilibrée. Avant même de perdre du poids, ce n'est pas un régime du tout, c'est une hygiène de vie. Et ça serait réducteur de le voir que comme une prise de poids. Le meilleur des bénéfices, c'est la forme. En 5 à 7 jours, beaucoup de mes patients disent « j'ai un turbo dans le dos ».
D'accord. Donc en plus de la perte de poids, il y a aussi un regain d'énergie, c'est ça ?
Oui, et c'est même avant. C'est-à-dire qu'on dort mieux, le foie travaille mieux la nuit, et du coup, vous êtes moins fatigué, vous reprenez de l'énergie. Et oui, ça, je dirais que c'est le premier des bénéfices.
Alors, ce qu'on peut quand même reprocher à la chrononutrition, c'est que ce sont des menus hyper protéinés. Il y a beaucoup de viande, de poisson. Est-ce que ça, ce n'est pas déséquilibré ? Les études montrent que les Français mangent déjà trop de viande en France.
Et puis, les rats n'aiment pas ça. Les rats n'aiment pas l'excès de protéines.
Damien Mascret.
Alors, en fait, on n'est pas si protéiné que ça. Si on considère une personne...
Mais c'est viande le soir et
oui,
poisson
oui,
le...
Oui, tout à fait.
Viande à midi, poisson le soir.
Si vous considérez un repas, je dirais, traditionnel, c'est-à-dire une entrée... un plat, du fromage, un dessert. En entrée, vous pouvez avoir, de la charcuterie ou un œuf dur. Vous avez un plat de viande. Vous avez du fromage qui est encore une source de protéines. Et vous finissez par une crème aux œufs ou un dessert, vous avez de nouveau des protéines. Mm-hmm. Donc au final, vous aurez plus de protéines sur un plat simple qui consiste uniquement entre une viande et un petit peu de féculent.
Mais ça veut dire que les végétariens ne peuvent pas suivre ce mode
Alors,
de vie.
Alors, c'est vrai que pour les végétariens, c'est très compliqué. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il n'y a rien de plus... Enfin, j'ai quand même des végétariens dans ma patientèle. Mais il n'y a rien de plus efficace quand même que les protéines animales pour beaucoup de choses par rapport aux protéines végétales. Hein, ne serait-ce qu'en termes de quantité, en termes de qualité. Il n'y a rien d'équivalent que les protéines animales. Donc, voilà, c'est un art de vivre, c'est autre chose. C'est vrai qu'en chrononutrition, ça devient compliqué.
Nous allons poursuivre cette conversation dans un instant.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Pourquoi faut-il limiter les aliments sucrés au goûter ? Pourquoi a-t-on le droit, faut-il pas limiter, faut-il favoriser les aliments sucrés au goûter ? Pourquoi a-t-on le droit de prendre un petit déjeuner copieux le matin ? Nous continuons de parler de chrononutrition dans un instant avec notre invité Isabelle Barra et le docteur Damien Mascret.
Anne Le Gall sur Europe 1.
Vous écoutez Sans rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. On continue de parler de chrononutrition avec le docteur Damien Mascret et notre invité du jour en studio, Isabelle Barra. Damien Mascret, vous aviez une question pour Isabelle Barra à l'instant.
Bah oui, vous ne m'aviez pas laissé la poser, mais je voulais la poser cette question parce que c'est important dès qu'on mange différemment. C'est est-ce qu'on a faim quand on suit finalement quelque chose basé sur la chrononutrition ?
Ça fait partie des gros intérêts de la chrononutrition parce que c'est une façon très efficace de perdre du poids sans avoir faim. Voilà, donc on peut augmenter les protéines. On a des types d'aliments qu'on peut augmenter à chaque repas, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner ou le soir. Et on peut augmenter à volonté, je dirais, tout ce qui est fromage le matin, voire les œufs, les protéines animales le midi et éventuellement les protéines et le poisson le soir.
Mais quand vous dites on n'a pas faim, on a quand même faim au moment de se mettre à table.
Alors, ça fait partie, je dirais, un petit peu des points négatifs de la chrononutrition. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus faim, qui sont tellement rassasiées avec les doses qu'on calcule, qui finissent par ne plus avoir cette sensation de faim. Déjà, ces personnes se désaccoutument assez rapidement du sucre. Il faut le dire, au bout d'une dizaine de jours, les sucres rapides, on s'en contente au goûter, ça suffit, c'est un grand moment plaisir. Il faut savoir que la chrononutrition est avant tout une façon de se nourrir qui procure beaucoup de plaisir. Beaucoup d'aliments comme le chocolat, le fromage, bon, c'est quand même des aliments qui sont assez sympas quand même par rapport à une autre méthode. Donc, en fait, le problème, c'est que pour en revenir à la faim, ça fait partie des points où les personnes peuvent ne plus avoir faim le soir, par exemple. le goûter ayant apporté la satiété.
Mais tout n'est pas en quantité libre quand même, on doit compter quand même, j'imagine.
Alors, on a des points de repère. Par exemple, le fromage le matin est à peu près équivalent, la quantité minimum est équivalente à vos centimètres de taille. Par exemple, vous faites 1m70, oui. Vous avez à peu près 70 grammes de fromage.
D'accord, c'est comme ça qu'on calcule.
Voilà, c'est comme ça qu'on calcule.
J'en ai un peu plus que vous, Anne.
Ah oui, vous avez plus. Alors, ça peut... J'adore le fromage.
Alors, en fonction de votre activité, en fonction de, je dirais, de la longueur de la matinée, on peut aussi ajuster. Ça, c'est clair. Mais c'est quand même une bonne portion de fromage.
Ouais.
C'est pareil pour les... Alors, le pain qui accompagne le fromage, il est souvent calculé de moitié. Si vous avez 70 grammes de fromage, on vous conseille plutôt 35 grammes de pain, ce qui n'est pas beaucoup.
D'accord.
Du pain complet.
Alors,
ou pas
complet,
forcément.
Ou alors, je dis un petit peu, le pain qui plaît ou qui vous plaît, en fait. Vous savez, c'est un peu discuté aussi, le fait qu'il soit complet ou pas complet. Hein.
Tu vois que le plaisir est très présent, effectivement.
Oui, mais c'est important parce que c'est une façon de se nourrir qui est affaire à vie. Donc, il est hors de question de se frustrer ou de s'imposer des aliments qu'on n'aime pas.
Mm-hmm.
Au bout d'un moment, on va craquer, quoi. C'est pas le but.
Isabelle Barra, on rappelle que vous avez une formation de docteur en pharmacie. Vous avez travaillé dans le domaine de la recherche pendant plus de 20 ans. Comment vous vous êtes intéressée, vous, à ce concept de chrononutrition? Et est-ce que ce sont des principes que vous vous appliquez à vous?
Ah, bonne question. Alors, en fait, effectivement...
Faut être honnête.
Oui, je vais être tout à fait honnête. Alors, je me suis intéressée à la chrononutrition tout à fait par hasard. En fait, la nutrition m'intéressait beaucoup.
Mm-hmm.
Il y a 15-20 ans... Voilà, et j'ai fait des recherches et je suis tombée sur la micro et la chrononutrition. J'ai vu qu'il y avait des diplômes universitaires par les facultés, notamment à Dijon, de médecine et pharmacie. Et donc, j'ai suivi ces diplômes universitaires. C'était une sorte de reconversion un petit peu professionnelle ou d'extension, on va dire.
Mm-hmm.
Et j'ai rencontré donc Alain Delabeau et Jean-Robert Rapin, qui est un pharmacologue nutritionniste et qui avaient mis tous les deux au point donc la chrononutrition dans les années 90.
Mmh.
Et donc, c'était une très belle rencontre, je dirais, scientifique. Et j'ai été tout à fait séduite par la méthode. En tant que chercheur, c'est vrai que ça m'a parlé tout de suite. Et j'avais enfin trouvé un fil conducteur et surtout des raisons et des explications sur quoi manger et pourquoi.
Alors, vous avez évoqué la micronutrition à l'instant.
Oui.
On a parlé un peu plus tôt de morphonutrition. Tous ces concepts sont liés. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est tout ça.
Alors, la micronutrition, en fait, c'est la branche de la nutrition qui s'occupe des micronutriments. C'est les aliments qui agissent en quantité infime.
D'accord. C'est par exemple,
les vitamines. Tout ce qui est oligo-éléments, le fer, le magnésium, les vitamines, les oméga-3, les probiotiques,
mm-hmm.
les antioxydants, les polyphénols, tout ce qui est dans le domaine des fruits rouges ou des oméga-3 dans les bonnes huiles. C'est tous les aliments qu'on retrouve dans ce que j'appelle les top 10, tous les aliments qui ont vraiment un pouvoir nutritionnel extrêmement intéressant.
D'accord, intense.
Et intense par opposition aux macronutriments que sont lipides, protéines, glucides. Voilà,
mm-hmm.
c'est mettre une loupe sur... les micronutriments.
Damien Mascret.
En même temps, oui, je les opposerai pas, parce que évidemment que tout est important, et qu'il faudrait pas que les gens pensent que il est plus important de se concentrer sur les micronutriments si on n'a pas équilibré de façon correcte,
évidemment.
Les macronutriments, il faut quand même le rappeler.
Je parlais de l'opposition de taille, macro et micro.
D'accord. Et la morphonutrition, alors là, on adapte le régime à la silhouette, c'est ça un peu?
Alors la morphonutrition, c'est un concept aussi qui a été développé par Alain Delabeau et qui est assez qui est vraiment extrêmement intéressant, en fait, qui a fait des liens entre votre profil, ce qu'on appelle le morphotype, et votre façon de s'alimenter.
Donc, c'est selon qu'on stocke la graisse en haut ou en bas du corps.
Voilà. Alors, en fait, en fonction de ce que vous mangez de trop ou pas assez, vous avez un profil particulier. Par exemple, si vous avez un ventre qui est un peu trop proéminent, très souvent, c'est lié à trop de féculents. Qu'on soit homme ou femme, d'ailleurs, hein, qu'importe le sexe. Bien sûr, il y a l'influence des hormones, mais il y a également l'influence des aliments. Donc, en général, quand vous avez de la graisse viscérale et quand vous avez un ventre trop gros, c'est que vous avez vraiment les féculents qui sont beaucoup, beaucoup trop importants.
Mm-hmm.
Quand c'est trop de sucre, c'est surtout le haut du corps, les
D'accord.
sucres rapides.
Okay.
Et le bas du corps, c'est surtout quand vous prenez trop d'aliments riches en eau, trop de salades, trop de soupes, des yaourts. Trop ce qui est riche en sels minéraux et vous gardez cette eau. Et bien souvent chez les femmes, c'est culottes de cheval, cuisses et cellulite.
Donc la chrononutrition tient compte de tous ces profils,
bien sûr,
et de ces silhouettes.
Et bien sûr, et on calcule, et on vous calcule votre profil idéal, votre morphotype, et en fonction du désir des patients, on réduit volontairement telle ou telle classe d'aliments pour cibler, en fait, on peut cibler la perte de poids. Si on veut perdre plus des hanches et garder le haut du corps, par exemple.
Attention, mais... il faut quand même rappeler que effectivement, si vous êtes une femme, c'est normal d'avoir un petit peu de ventre,
oui,
un petit peu de hanche.
Un peu de réserve.
Les hormones, vous avez des hormones féminines, c'est normal.
Merci beaucoup, merci Damien Masqueret. Merci Isabelle Barra d'être venue nous éclairer. On rappelle que vous faites du conseil en nutrition à Paris. On peut trouver beaucoup d'informations sur votre site internet www.chrononutrition-isabellebarra.com. Merci à vous.
Merci, c'est un plaisir.
Europe 1.
Votre émission santé continue dans un instant avec notre rendez-vous de coaching psycho et des conseils pour booster votre mental pendant l'été. Et puis bien sûr, il y aura la chronique sexo de Damien Masqueret. A tout de suite.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Damien Masqueret. Et tous les jours, vers 15h40, nous parlerons de développement personnel et de bien-être mental. Parce que la forme, ça se passe aussi dans la tête. Et tous les jours, nous serons en ligne avec un expert. Aujourd'hui, c'est Florence Servan-Schreiber qui est avec nous. Bonjour Florence.
Bonjour Anne.
Vous êtes journaliste et spécialiste de la psychologie positive. Aujourd'hui, c'est vous, notre coach. Alors, vous allez nous aider à aller mieux, à booster notre mental. Alors, allons-y. Si vous aviez 3 conseils à nous donner pour cet été, pour déconnecter, pour profiter de cette pause estivale, ce serait quoi ?
Ah, alors, quelle bonne question. Je crois que les vacances cette année sont très particulières parce que beaucoup de gens qui avaient prévu de partir ne partent pas. Certains même n'arrivent pas à formuler de projet parce que vraiment notre cerveau est un peu embouilli après tout ce qui nous est arrivé.
Après le confinement, oui.
Donc, imaginons que nous sommes soit coincés à la maison ou que nous ne partons pas très loin. Il y a quelque chose, c'est presque un jeu mental que j'appelle la grande aventure, qui est en fait de regarder son quotidien, c'est-à-dire ce que nous faisons tous les jours avec le périscope de quelqu'un qui le découvrirait pour la première fois.
D'accord, on devient touriste chez nous.
Oui, on devient touriste et le tourisme, pourquoi est-ce qu'on adore ça ? C'est parce que tout nous surprend, donc nous voyons tout. Que ce soit un paysage, que ce soit un plat, un restaurant, un café, des gens, des voitures différentes, etc. Instantanément, ça crée une petite décharge dans le cerveau qui nous dit « Oh là là, je suis en vie, il se passe quelque chose et je suis épatée ». Donc, si nous ne nous déplaçons pas, eh bien, à nous de déplacer le regard. Et c'est vraiment un jeu, hein. J'y joue moi-même, étant moi-même exactement... les vacances vont se passer, imaginez-vous, sur mon lieu de confinement. Donc, il va falloir que je fasse une très grande aventure intérieure pour avoir la sensation de nouveauté qu'on adore pendant les vacances. Et c'est possible.
Et c'est possible. Et ça peut être aussi de faire ses courses dans un autre magasin, de prendre un autre itinéraire pour visiter le quartier.
Oui, car figurez-vous que votre épicerie n'est pas la seule à détenir les produits que vous aimez. Et que quand on se déplace pour aller en voir une autre, C'est rien, mais ça peut être un sourire différent, ça peut être des gens différents, la façon dont il a fallu se stationner était autrement. Nous sommes donc en alerte parce que nous sommes dans de la nouveauté et la nouveauté est plus fraîche, légère et réjouissante que l'habitude. Toujours.
Donc premier conseil, voyager chez soi. Le deuxième conseil, ce serait quoi ?
Eh bien, où que nous soyons, de faire en sorte de s'approcher de la nature. C'est-à-dire qu'il faut savoir que de voir du ciel bleu, de voir des plantes vertes, c'est quelque chose, c'est archaïque, qui nous rassure et qui nous encourage. Parce que quand le ciel est bleu et que nous voyons de la nature verte, notre cerveau se dit « il va y avoir à manger ». Donc, nous ne sommes pas inquiets et ça nous fait donc du bien. L'inquiétude quand même, soyons clairs, nous a totalement grignotés. On peut vraiment parler de grignotage de morale pendant tous les mois que nous venons de passer. Donc, notre cerveau aussi a besoin de vacances. Et quand on l'emmène dans la nature, c'est automatique, c'est quelque chose que nous ne contrôlons pas. La vue de feuilles, la vue de choses qui bougent toutes seules, les mouvements du vent quand on a la chance de croiser un animal, tout à coup, on se sent appartenir à un grand tout. Et le grand tout nous remet dans une place qui est en fait celle de passager et à ce moment-là, nous ne sommes plus inquiets.
D'accord, ça c'est le deuxième conseil, se rapprocher de la nature. Et le troisième ?
Eh bien, de prendre des libertés. Alors, la liberté, c'est de dire tout ce repassage que j'ai à faire, tout ce qui est sur ma liste habituelle, parce que, en plus de ça, si nous restons chez nous, nous restons quand même dans nos automatismes. Mmh. Je les envoie balader. Et ça ne veut pas dire que je ne les ferai pas, mais je ne vais pas les faire dans le même ordre. Et par exemple, on peut décider que cette semaine, ou n'importe quelle semaine de nos vacances, l'objectif est de terminer un livre, de l'avoir lu jusqu'au bout. C'est plus important que le repassage ou je ne sais quoi que nous ferions de façon un peu mécanique. Et nous prenons donc des vacances de notre propre routine.
D'accord. On laisse tomber les obligations qu'on se fixe habituellement et on se fait plaisir.
Oui, ou alors on les fait dans le désordre. C'est-à-dire que ça
on lit avant de repasser.
Exactement. On finit le livre avant de repasser. Et tout à coup, c'est le repassage qui se mérite. Alors que dans la vie de tous les jours, souvent, c'est la lecture qui se mérite après le repassage. Donc, on met les choses à l'envers, on se met un petit peu la tête en bas. Et c'est ça qui nous donne la sensation de ne pas être contraints. Et Dieu sait que nous avons besoin de ne pas être contraints et de pouvoir choisir tout simplement ce que nous faisons. Donc, on se fiche la paix, en fait.
Le docteur Damien Mascret a une question pour vous.
Oui, bon, bonjour Florence, chère Chabert. Oui, j'ai noté un mot que vous avez dit qui m'a frappé. Vous avez dit, on ne fait pas les choses mécaniquement. C'est vrai que dans la vie quotidienne, on a tendance à faire des tas de choses. Moi, je pensais à me raser, par exemple, toujours dans le même ordre. On fait les choses mécaniquement et ça, c'est pas bon.
Eh bien, essayez de vous raser dans l'autre sens ou dans les ordres.
Je vais essayer.
Il y aura quelques coupures, mais ce sera une nouvelle aventure. Non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est ça qui nous endort. Et c'est très utile, hein, parce que notre cerveau ne pourrait pas penser à tout. Donc, Dieu merci, n'a pas besoin de se souvenir qu'il faut se raser, vous y allez tout seul. Justement, mécaniquement, c'est déjà ça de fait. Mais dans un moment où on a envie d'une expérience différente, eh bien, il va falloir s'y prendre différemment. Et c'est vrai. Tout à coup, ça n'est plus mécanique, c'est un choix. Alors, ça, c'est une très bonne idée. Si vous êtes droitier, essayez de vous laver les mains avec de vous laver les dents avec la main gauche.
Ah oui, ça, c'est pas gagné.
On va essayer. Électrique, ça va aller.
On va essayer. Merci, merci infiniment, Florence Servan-Schreiber. On vous souhaite un bel été et on redonne On redonne le titre de votre dernier livre. Ça s'appelle Bloom aux éditions Marabout. Merci.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé sans rendez-vous continue dans un instant avec la chronique Sexo et la vie affective du docteur Damien Mascret au programme. Damien ?
Eh bien, dans les contes de fées, vous savez que l'amour dure toujours. Dans la réalité, ça n'est pas toujours le cas, mais vous allez voir, il y a des secrets pour faire durer le couple.
Europe 1, Anne Le Gall.
Vous écoutez sans rendez-vous votre émission Santé-Bien-être de 15h à 16h et dans cette dernière séquence de l'émission, nous parlons sexo et vie de couple avec vous, Damien Mascret. On précise à nos auditeurs que vous avez une formation de médecin sexologue. Aujourd'hui, vous allez nous parler des contes de fées.
Exactement, Anne, et je vais vous donner même un petit indice musical.
Alors, c'est fini les contes de fées, dit la chanson. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, c'est fini. Mais ça n'est pas grave, parce que figurez-vous que l'amour, maintenant, on l'a théorisé et on sait qu'il y a trois composantes à l'amour. Ah. C'est un triangle, en
D'accord.
fait. Hein. Il y a à la fois la passion amoureuse et sexuelle. Il y a à la fois l'intimité que vous développez avec votre partenaire. Et puis, il y a également l'engagement dans votre couple. Je vais évidemment commencer par ce qui est le plus important, Anne.
L'intimité.
Eh oui, l'intimité. Alors l'intimité, c'est bien sûr être bien ensemble. Vous êtes heureux quand vous êtes avec l'autre, mais ça va plus loin. Vous voulez le bonheur de l'autre. Vous voulez cette réciprocité qui fait que vous lui souhaitez le meilleur et que l'autre vous souhaite le meilleur également. Et puis ça va aussi jusqu'au respect, évidemment. Vous respectez l'autre, il vous respecte. L'estime de soi est renforcée. Il y a une compréhension mutuelle. Et il y a aussi, et ça part pas dans tous les couples malheureusement, il y a un partage matériel en principe. Ce qui vous appartient, appartient à l'autre, pas juridiquement, je parle affectivement. Tout est pour tout le monde, voilà, vous
D'accord.
partagez
et
tout.
Et c'est comme ça qu'on fait la connexion avec l'autre.
Et c'est comme ça exactement que vous êtes capable, non seulement d'être en connexion avec l'autre, mais de communiquer, parfois même sans parler. Un couple parfois peut passer des heures ensemble à être bien, sans avoir échangé un mot. Il n'y a pas du tout de gêne, il n'y a pas d'inconfort parce que vous êtes dans une intimité qui est complètement partagée. Et ça va à tel point qu'on pourrait avoir cette jolie formule d'un poète Rumi qui dit que les amants ne se rencontrent nulle part, ils sont dans l'autre toujours.
Alors vous nous vendez le triangle de l'amour comme le ciment du couple avec l'importance de l'intimité. Mais ça manque un peu de concret, non, tout ça, non ? Ah bah oui.
Bah oui, ça manque un peu de concret. Ça manque de sexualité, évidemment. L'attirance physique, le désir sexuel, la passion. Évidemment, c'est ça qui saute aux yeux. C'est comme ça que commence généralement d'ailleurs un couple. Et ça veut dire aussi que cette passion fait que vous êtes désiré, vous vous sentez désiré et vous désirez l'autre. Vous avez aussi, parfois dans certains couples, l'impression d'appartenir à l'autre ou que l'autre vous appartient. Attention, ça n'est pas quelque chose de déséquilibré. C'est quelque chose qui est vécu positivement. Sinon, eh bien là, on bascule dans le pathologique, on bascule dans la jalousie.
Voilà, donc vous nous parlez du triangle, hein. Intimité, engagement, passion. S'il y a un de ces trois sommets qui se porte mal, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, on s'en occupe, voilà. Hein. Si jamais l'engagement, l'un des deux s'est désengagé du couple, par exemple, si l'un des deux ne fait plus d'efforts dans le couple, eh bien, évidemment, à ce moment-là, il va falloir avoir une discussion. Alors souvent, ça se manifeste de façon très simple. C'est l'un des deux qui va signaler à l'autre, j'aimerais bien que tu ranges tes affaires, que tu mettes pour la vaisselle, que tu sortes les poubelles, que tu t'occupes de la paperasse, bref. Quoi qu'il soit dit, c'est important de l'entendre. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas le faire aussi de mauvais cœur. On le fait vraiment volontairement pour aider l'autre. Ça n'est pas pour aider l'autre, justement. C'est là où est la subtilité. C'est pour aider son couple. Il est normal que tout soit réparti, que la charge émotionnelle soit bien répartie. Et puis, si c'est, par exemple, le respect qui manque, hein, ça peut arriver. Dans la chanson d'Amalia, par exemple, elle l'avait très bien expliqué. D'ailleurs, à partir du moment où l'autre ne vous respecte pas, c'est qu'il ne vous aime pas comme il devrait vous aimer. Donc, il faut mieux, dans ce cas-là, reprendre votre autonomie s'il n'est pas capable de vous respecter. C'est aussi un des messages forts qu'il faut avoir. Puis bien sûr, quand la sexualité va mal, il ne faut pas hésiter à consulter parce que ça se résout rarement tout seul. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, eh bien, les thérapeutes peuvent vraiment vous aider sur ce plan-là.
Voilà, le triangle de l'amour comme secret des couples qui durent. Merci beaucoup, docteur Damien Mascret. Les meilleurs conseils pour votre bien-être et votre santé, on les partage tous les jours de 15h à 16h dans 100 rendez-vous sur Europe 1. Demain, vous nous parlerez notamment, Damien.
Ben, je vais vous parler de... Je ne me souviens plus de quoi je
vous parle. De l'importance, je crois, de la vaccination.
Merci,
si mes souvenirs
Anne.
Sont bons. Il y aura aussi, bien sûr, la chronique sexo. Et notre dossier du jour sera consacré demain aux vacances. Comment faire pour les réussir? Question d'importance après le confinement. Nous recevrons un psychiatre en studio pour en parler. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à 15h.